D'accord.
Ça tourne.
La la la.
La 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 la.
Je me rappelle la première fois, tu m'avais parlé beaucoup de la question de la foi et justement de la figure de Bernadette Soubirous, la figure de la sainte. Et je me suis demandé, comme je me suis vue te représenter en vierge.
Oui, c'est vrai.
Je me suis demandé qui était la figure de la Vierge, la sainte, la figure féminine de la foi.
Eh bien déjà, c'est la seule représentation féminine. Enfin bon, dans l'Ancien Testament, non, mais dans le Nouveau, on aurait la Vierge. On aurait en Marie-Madeleine, mais elle est tellement maltraitée, ce serait horrible de s'identifier à elle, Marie-Madeleine. Mais tu vois, oui, tu me dirais, dans le Nouveau Testament, il y a qui? Il y a Jésus et Marie. Et voilà, je suis une femme, donc, moi c'est Marie. En toute modestie.
En toute modestie.
Ben oui, non oui, il y a plusieurs choses. Voilà, dans notre culture monothéiste, catholique, il y a deux figures, une féminine, la Vierge Marie et l'autre.
Tu as aussi une figure féminine, masculine, invisible. Comment l'appelles-tu?
Dieu.
Je ne sais plus comment on dit. La Trinité.
Jésus est né en Provence.
Oui, c'est ça.
La Trinité.
La Trinité. Jésus, le Seigneur est notre esprit.
Pour nom
merci.
Du Père,
au nom du Fils, Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bah oui. Donc il n'y a pas de femme là-dedans. Non, non.
La Trinité masculine.
C'est la Trinité masculine. Le triangle infernal avec cette femme qui est autour, un satellite. C'est elle qui rend les choses possibles. Elle fait le lien entre le Saint-Esprit et la terre. Elle sert comme ça de passage. Non, mais il y a ça, et puis... Mais il y a aussi le fait qu'elle a les pieds sur terre. C'est très important. Oui, on peut prier Jésus, c'est vrai.
Et on est consolé par la Vierge.
Oui, complètement. Sous le regard de Jésus, nous aurons la crainte. L'enjeu étant le salut. Tout ça, le truc catho. Je n'ai pas la bonne définition catholique, donc je peux dire n'importe quoi, parce que je ne suis pas qu'intéressée par la religion catholique. Mais la Vierge, elle a aussi ce pouvoir iconographique que Jésus n'a pas. Jésus est représenté toujours en cadavre. Sur une croix, c'est difficile. Ou en bébé, dans les bras de sa mère, la Vierge.
C'est dans l'iconographie de la Vierge.
Exactement. Il devient accessoire. Tu as raison. C'est la Vierge qui fait fantasmer, je pense, je trouve. Enfin, je sais pas toi. quand on regarde les peintures de vierges. Enfin, c'est le lien qu'on regarde entre le bébé et elle, mais Jésus est tellement immonde. Enfin, juste en parlant de beauté, des traits du visage et tout ça, la représentation du nourrisson est une catastrophe.
Tu sais, j'ai bien aimé dans la crèche vivante les polymères filles du Christ. Ha 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 ha. C'est-à-dire qu'il était divisé en plusieurs visages qui sortaient par plusieurs choses. Quand il est justement le Christ, et puis devient un personnage, parce que la Vierge, avant que...
Non, il y a la jeune Vierge, et puis...
Elle
la
est
mère.
Très discrète.
Mais surtout Jésus et la Vierge s'interchangent. À un moment, dans la crèche vivante, ils font tout. Ils essayent de représenter un éventail de 45 peintures de la Vierge. 45 madones passent comme ça, d'un état à l'autre, d'une tête à l'autre, que nous avons choisi ensemble. C'était super, bref, et ensuite, je tenais beaucoup à ça. Il se passait plein de choses. Ils étaient les personnages qui restaient sur scène tout le long. Ils interchangeaient de rôles. Et puis... Simon était vierge, et puis Viviana...
Oui,
Jésus.
Voilà.
Et en fait, cette histoire-là, elle vient des recherches d'un ami ethnologue, Salvatore, ethnologue sicilien.
Le fameux chercheur sicilien.
C'est ça. Il a fait toute une recherche sur la Vierge qui, au moment de sa mort, a son chevet, l'enfant Jésus, et elle devient elle aussi un petit bébé, l'enfant Jésus la porte. Il y a quelques représentations qui existent dans le sud de l'Italie, où l'on voit un bébé. Un bébé Marie dans les bras de Jésus. Voilà. Dans le texte de Salvatore d'Onofrio, retranscrit des rituels siciliens, des rituels qui se font encore, où se rejouent les retrouvailles de la Vierge et de l'enfant Jésus. Tous les deux adultes, ayant le même âge, dimension sexuelle très forte, ils se roulent des pelles, il y a un truc très violent. Ça doit être par jour, ce rituel-là viendrait d'une représentation que je n'ai pas vue. Voilà. La crèche vivante étant la dernière pièce que j'ai faite, la dernière pièce chrétienne. Ha ha. Je m'approche plus des mythes grecs en ce moment. Je me suis toujours intéressée, mais voilà.
Alors dis-moi, cet intérêt pour les mythes grecs?
C'est pas un intérêt particulier pour les Grecs. C'est pas vraiment... L'entrée n'est pas comme ça. C'est plutôt... pour perdurer dans les figures féminines puissantes. Passer la Vierge Marie. Passer Jeanne d'Arc. Je m'étais préoccupée de figures comme ça, terriennes, Bernadette Soubirous, mais aussi Jeanne d'Arc. Et ce sont les premières pièces, mes premières pièces, premières histoires, premières recherches là-dessus. Et puis là, je voulais faire, je sais juste que je me préoccupais de la terre à ce moment-là. Et puis la déesse de la terre, c'est Déméter. Enfin, c'est la déesse de l'agriculture, de la terre fertile. J'étais dans des histoires organiques.
Et là, je vois ton catalogue formlos. Ah.
Le mobilier informe.
Mais tu ne m'en parleras pas parce que c'est une surprise.
C'est une surprise.
Je ne sais pas si tu as acheté le livre pour la couverture, mais en tout cas...
Oui, tu m'étonnes quand j'ai vu ce livre. Et voilà. C'est pas les mythes grecs, c'est les déesses grecques. Mais juste pour dire un truc sur les figures féminines.
Oui.
Il se trouve que pendant... Jusqu'à peu, les seules femmes qui accédaient à la... Comment ça s'appelle? À la fame? La reconnaissance, c'était soit des aristocrates... Soit des
extatiques.
Oui.
Tu m'avais dit quoi? Que Bernadette Soubirous c'était la Brigitte Bardot de l'époque.
Haha. Quelque chose d'un peu de ça. C'était pas un sex symbole. Soit t'es Aliénor d'Aquitaine, en gros. Soit Sainte Thérèse d'Avila, Bernadette Soubirous, Jeanne d'Arc, qui sont d'abord des enfants de la misère, des campagnes.
C'est vrai que c'est seulement à des moments de l'histoire où les femmes ont acquis un certain pouvoir, des poétesses. Je pense par exemple aux précieuses, au Moyen-Âge, etc. C'était lié à des moments courts où les femmes avaient une présence politique plus forte, ou une présence dans la société. Mais c'était des moments courts.
Les précieuses, qui sont-elles socialement?
Oh, mais je... C'est des bourgeoises, des nobles.
Car cette question... Bernadette Soubirous, elle est catho, poussiéreuse, sauf qu'elle vient d'un monde de rien... du tout, et pour l'histoire des femmes, c'est dans l'histoire politique des femmes que quand une femme de rien du tout reste que la question de la classe sociale perdure. Je me suis intéressée à chaque fois à ces femmes qui avait accédé à la reconnaissance politique, militaire, religieuse, alors qu'elle venait de rien du tout, de rien du tout. Et je continue, mais je ne saurais et je ne suis pas fascinée par les aristocrates. Je m'en fous. quelque chose de cette condition qui ne m'intéresse pas, et ça me fait dire que ce n'est pas seulement parce qu'elles sont des femmes qu'elles m'intéressent, mais surtout parce qu'elles sont des minorités. Et voilà, toute la question du féminisme, elle est là, elle est là, pas assez souvent nommée, la question de la minorité avant tout. Là, je pense à Bernadette et sa condition sociale et d'origine et permet aussi d'être drôle. Enfin, je délire peut-être, mais d'invoquer la pitié. Ça lui est donné, peut-être que cette dimension leur permet, enfin me permet à moi, dans leur représentation, d'en faire des femmes plus libres, de leur représentation, de leur corps, de leur physique, que si c'est les aristocrates, où tout de suite la parure est donnée. Et en plus, ça coûterait plus cher en costume.
Mais tu sais, moi j'ai une interprétation très personnelle. Ce qui m'avait particulièrement touchée, c'était le fait que dans le film, le personnage Bernadette fait un parcours initiatique. Son parcours passe à travers un éveil. Son éveil est un orgasme. Et à partir de l'orgasme, elle ira dans la grotte se poser des questions. Elle aura des apparitions. Et ça m'a fait me questionner sur qu'est-ce que c'était les récits d'initiation dans la littérature. Moi, j'ai ces souvenirs quand j'ai lu des livres, le fameux roman d'initiation où des hommes de province montant à capitale sont déniaisés par des femmes et ils apprennent la vie. Et dans ces récits, il y a toujours une partie sexuelle. Mais c'est comme si la femme n'avait jamais eu le droit à ces histoires, à ce parcours. La femme est en retrait. Elle est toujours présentée comme un être désœuvré, ballotté dans le système patriarcal. Voilà, qui aura toujours une fin tragique. L'initiation d'une femme est peu racontée. C'est pour ça que j'ai aimé Portrait of a Lady d'Henry James. D'ailleurs, l'adaptation de Jane Campion, que tout le monde déteste, je l'aime beaucoup, où il y a une scène où elle rêve. Elle a les trois hommes qui la courtisent. Elle fantasme que les trois hommes la caressent. Et je trouvais ça intéressant dans son film que la question de l'initiation soit abordée sur le plan sexuel. Car on ne parle pas de ça. On ne parle pas dans l'histoire de ces choses-là. On n'envisage pas la subjectivité féminine dans l'initiation.
Oui, de la subjectivité de ce que tu me dis. Elle passe par la sexualité. Voilà quoi. C'est quand même une façon de passer à l'âge adulte.
Disons que dans les mythes païens, il y a toujours cette dimension de l'initiation sexuelle, considérée comme une étape importante pour le sexe masculin, alors qu'il ne l'est pas pour le sexe féminin.
D'un coup, je cherche si j'en connais. Est-ce que... non, évidemment, elles sont toujours enlevées, violées dans les mythes grecs. C'est que des viols. Si même elles ont une sexualité très forte.
Zut.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Oui, ouais, enfin, c'est pas dit, quoi. Je sais pas. À voir, car les mythes grecs, ils sont beaucoup plus, enfin, la question de la féminité est très forte, est distribuée, mêlée, inceste.
Et alors, j'aimerais parler de notre cher Ulrike Oettinger et de son film « Business eine Trinkerin ».
Ça t'a plu ?
Oh oui !
Ouais, c'est beau !
Oh oui !
Je crois que c'est mon préféré de Ulrike Oettinger. Je crois aussi que c'est le mieux monté sans être méchante. Ouais, un peu long, mais Bildnis einer Trinkerin, en français, portrait d'une buveuse. C'est merveilleux, d'ailleurs, ça rejoint bien ce que tu racontes, Barbara.
Portrait of a lady.
Allez, jamais sans retour est l'autre titre en français de Bildnis. C'est un film, mais non.
C'est avant
la chute du mur.
Tu sais, il y a cette scène.
Bien sûr. Il y a les cochons au bas du mur. Donc c'est un portrait de Berlin.
Cette traversée, c'est aussi super beau, ça.
C'est magnifique. Le Berlin à travers une femme.
Et il y a ces trois femmes qui sont les statisticiennes et qui disent que ce qu'il y a de pire, c'est... Et elles disent que le soulard reste une figure chargée de masculinité, alors que il n'y a rien de pire qu'une soularde.
Oettinger a fait aussi beaucoup de documentaires. Elle est à cheval entre ethnographie et fiction pure. Mythologie. Et compte. Mais Bildnis est celui qui fait le mieux pour moi. Le pont, son personnage est issu d'un conte. Il se trouve qu'en plus c'est sa muse et sa femme, sa compagne. Il y a aussi un portrait d'amour, un portrait d'amoureuse. C'est anecdotique. On peut voir le film sans savoir cette histoire. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre le film. Mais le sujet est superbe de dire « Ouais, les alcoolos femmes, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus dégoûtant. C'est ça, les vins. » Enfin, voilà, c'est...
« Mais c'est ce qu'est le contrecœur en l'incarnant dans un personnage sublime aux toilettes magnifiques.
Ouais. Une tenue différente dans chaque plan, assortie au décor, c'est un peu comme dans un film de Jacques Demy. Tabea Blumenschein, elle est super. Et Tabea Blumenschein, elle joue aussi la pirate. Herr Führerin, je sais plus, la maîtresse absolue dans Madame X de Ulrich Oettinger, elle est aussi. Elle est. Tu vas adorer Madame X. C'est 6 portraits de femmes. Elles sont toutes, en fait, elles se rejoignent toutes sur un bateau pirate. Toutes convoquées par la maîtresse absolue, Madame X, qui est une sorte de comme ça, vécu de cuir, en sorte de femme robot, Tabea Blumenschein, un catsuit avec des extensions et un Édouard Romain d'argent, avant Édouard Romain d'argent. Et elle fait figure de proue, elle est la proue du bateau pirate.
Ah oui, mais j'ai vu le plan.
Ah oui. Ah, elle fait proue. C'est une femme objet, proue de bateau pirate, proue d'un mouvement. La femme proue, c'est superbe. Et Oettinger, elle est extraordinaire, c'est une plasticienne, elle est peintre, à la base elle a fait les beaux-arts et puis ensuite elle fait du cinéma, enfin elle fait du cinéma aux beaux-arts. Et là elle convoque 5 ou 6 femmes toutes qui se rejoignent sur le bateau et des femmes, je sais plus quoi. L'une est jouée par Yvonne Rainer et puis voilà, les toute une collection de ses connaissances. De figure, de proue. Voilà, que je suis con. La figure de proue, ça existe déjà. La proue femme, enfin. Et voilà, il faut objectiver, non, incarner la chose.
J'aimerais parler de Delphine Seyrigle dans les films d'Ulrike. Je me demandais... Elle incarne des personnages féminins assez particuliers, comment dire, des figures étranges, je ne saurais pas trop analyser. Qu'en penses-tu? Ça n'est pas forcément... Ce sont des vraies femmes. Elles n'ont pas la beauté naïve. La sexualité de la jeunesse, dans d'autres films, elle a cette espèce de charme, sensualité plus mûre. Elle incarne des personnages plus âgés.
Oui, elle incarne toujours des personnages forts. Elle a une présence. C'est plus du tout des. Enfin, c'est plus une femme enfant, c'est plutôt la sage. En sage, en celle qui a le savoir, en. Intellectuelle. Merde, j'ai oublié le nom, le mot. Elle est celle qui sait, quoi. Elle...
Mais dans le premier plan de Freaky Hollander, elle est cette sorte de divinité qui sort de la terre. Elle est un peu demi-déesse.
Oui, et après elle fait la mère. D'abord la speakerine de supermarché, et puis...
Oui.
Puis ensuite elle fait la mère... Et puis, dans Johanna d'Arc of Mongolia, elle fait la narratrice, la protagoniste.
Donc elle fait Jeanne d'Arc?
Non, non. Non, non, Johanna d'Arc, c'est une jeune fille qui monte dans le train. Mais la protagoniste, enfin la narratrice.
La narratrice.
La narratrice. C'est Delphine. Delphine est toujours un peu triste. Et la narratrice. Elle l'utilise en tant qu'intellectuelle. Elle est la femme intellectuelle. Mais comme elle utilise Yvonne Rainer comme ça, on sent que...
Je n'ai pas vu, alors je ne saurais. Mais elle bouge surtout, Yvonne.
Oui, mais Yvonne Rainer était une intellectuelle.
Oh oui.
Comme Delphine Seyrig. Enfin, c'est débile de les comparer, mais... Ouais, j'ai l'impression.
Ouais. Mais Delphine n'a jamais écrit.
Oui, mais même si elle n'a pas écrit, je la considère, oui, comme intellectuelle.
Oui, je suis d'accord. Mais Yvonne Rainer écrit des textes, des vrais textes théoriques sur la performance.
Mais d'ailleurs, parce qu'on a commencé à faire un film avec Marguerite Vaprot sur Ulrich Oettinger, le commentaire le plus beau que nous avons utilisé pour parler d'Oettinger, c'est Delphine Seyrig qui l'a écrit.
Ah oui ?
Il faudrait que je te le donne, il est très beau, il est parfait, elle a tout compris. C'est ce qu'on a trouvé le mieux. C'est quelques lignes. Où elle, en gros, elle introduit le cinéma d'Oettinger en France, mais ça n'a pas marché. Elle défend son film.
Alors, j'aimerais savoir comment était née l'idée du projet. Si c'était à la résidence, si tu as trouvé d'abord la grotte, ou d'abord Bernadette Soubirous. Et comment le projet s'est mis en place? Et était-ce la première fois que tu rassemblais tellement de gens dans un projet artistique? Voilà.
Écoute, il y a une réponse dans ta question qui est qu'effectivement, ça a marqué le début d'une famille artistique. Ce n'est pas vraiment le mot. Je me suis mis dans une famille d'artistes, mais non. Non, non, ça a un peu fait une troupe. Tu vois, une troupe,
un club.
Un club. Je crois que une troupe, ça me plaît
une
bien.
Une troupe.
Et puis, le projet est né d'abord. C'est régional. C'est midi-pyrénéen comme projet. L'argent venait du midi-pyrénées. J'avais vu au printemps de septembre. À ce moment-là, j'avais pas fait beaucoup de projets. Enfin, bref, pas de cette envergure. Et puis, l'année juste avant, j'étais allée à Basel. J'avais vu le projet qui m'avait le plus marqué dans cette grande foire. C'était un film fait à Bâle, sur Bâle, qui était le film d'Aurélien Froment sur une vieille, une usine, une fabrique de je sais pas quoi. Il avait filmé les rouages de la machine et puis... Enfin, juste, je sais pas, je crois que dans ce grand truc, ce qui m'avait touché, c'est qu'au milieu, il y a eu quelque chose de fait, quelque chose qui parlait de la ville dans laquelle je me trouvais. Il y avait quelque chose de local et de terroir. Et cette question de terroir s'est reposée au printemps de septembre. Il faut faire un truc là-bas, me suis-je dit. Midi-Pyrénées, c'est quand même une région extraordinaire, parce que d'abord il y a Bernadette Soubirous, après Jeanne d'Arc, formidable diptyque, les deux ensemble, Bernadette et les grottes. Ah, sublimes les grottes préhistoriques. Je pars en repérage et deux jours et je vois le plus de grottes en deux jours. J'ai fait tout ça avec Thierry Levier et en fait les deux, tout était fabuleux. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces trucs fabuleux? Eh bien, c'est la grotte. Parce qu'elle voit la Vierge dans la grotte et parce que tout le jeu mental après était de lier. C'est tout. En même temps, il y avait cet objet, la grotte, et tout le film qui est complexe, il essaye ce film de définir, il essaye d'inventer l'adjectif grotte. Un nom commun, je essayais d'en faire un adjectif et de faire un film grotte.
Bon, bah, les débuts, va falloir...
Attends.